La matière, c'est la vie aussi.
Toutes ces idées qui viennent, il faut les attraper comme des mouches quand elles passent. Ce sont des idées bleues, des idées roses, des idées qui passent.
L'art et la matière. Une émission de Jean Deloisy.
Parce qu'on veut transformer la vie pour nous.
Ils empruntent des chemins qui n'existent pas, ils utilisent des formes et des mots inconnus, ils transforment ce que nous savions du monde, ce sont les artistes. Pour vous raconter ces aventures de l'œil et de l'esprit, j'invite écrivains, historiens, commissaires d'exposition ou simplement passionnés, car l'art est leur matière. C'était une nuit passée dans le musée Picasso à Paris, à laquelle avaient été invités deux amis, l'artiste Adèle Abdessemed et l'écrivain Christophe Honodibio. À ce moment-là, le musée était consacré à Guernica, le chef-d'œuvre par lequel Picasso se confronte aux puissances de destruction, celles des fascistes qui, le 26 avril 1937, ont massacré la population de la petite ville basque Guernica. La destruction, celle que plus largement peut-être les humains ne cessent tragiquement d'accomplir. Quand l'artiste et l'écrivain traversent ensemble cette nuit espagnole, toute l'exposition est consacrée à la genèse et au développement de ce chef-d'œuvre. Mais la grande toile immobilisée à Madrid est-elle absente? Et cette nuit, entre les œuvres de Picasso et une entrée dans le labyrinthe, l'occasion est là d'arracher des spectres au néant, de dire le passé de l'homme et le présent de l'artiste, au fond, une plongée, pour reprendre le titre d'un livre d'Honodibio, dans laquelle les événements de la vie passée d'Adèle Abdessemed sont révélés et élevés en une réflexion sur le sens profond de l'art, de la beauté, de la sensualité. Une plongée dans l'art comme antidote. Allons-y, à l'attaque.
Qu'as-tu vu, Adèle, pour écraser la lumière comme on le ferait d'un sale serpent? Au lieu de me répondre, il me montre son dessin. Un œil. L'œil lumineux de Guernica, tout vibrant d'éclairs d'électricité morbide. Et au-dessus, un pied. Un pied géant qui va écraser cet œil, comme dans sa vidéo Nuance. Ce que j'ai vu les bourreaux à l'œuvre, les islamistes tués. J'ai vu un responsable des études se balancer au bout d'une corde, et quand tu as vu ça, c'est difficile, mon ami. Tu as envie de te crever les yeux pour ne plus voir ces choses, mais tu préfères, dans un élan de survie, frapper la lumière qui te les fait voir. C'est de l'autodéfense, plus que de la résilience.
On vient d'entendre le texte écrit par Christophe Honodibio et qui est une partie du récit extraordinaire de cette nuit espagnole, qui est le récit de cette aventure vécue à deux, un artiste et un écrivain, ensemble. Christophe, merci d'être avec nous.
Bonjour, Jean Deloisy.
Adèle Abdessemed, merci infiniment d'être avec nous aussi et d'avoir accepté de passer cette nuit dans ce musée, cet hôtel particulier, au milieu d'une exposition qui était curieuse, violente. Et vous avez commencé, quand on entend, quand on lit le livre, et on l'entend parfois, puisqu'on vous entend dans ce livre, en disant « à l'attaque ». Ça veut dire quoi, « à l'attaque » c'est, vous le dites souvent.
Oui, c'est une prison. Nous étions enfermés dans une prison, mais prison, moi je dis, très agréable.
Une bonne prison, quand même.
Très heureuse présent à travers voilà des œuvres, mais c'était des peuples, c'était des tribus, c'était des lignes, c'était de la géométrie, c'était de la soustraction, des divisions, de la multiplicité. C'était sincèrement c'était une chose aussi qu'on peut pas la négliger. C'était On était comme des fakirs, comme une sorte de souffés. À la fois, on marchait sur de la braise, mais aussi, on s'est transformé en jarre. En jarre faite par un potier et remplie d'alcool, en vérité.
Parce que c'était... Mais vous avez raison, cette nuit, vous avez été accompagné par un personnage curieux qui s'appelle Socrate. Qu'est-ce que c'était ?
Ah, mais Socrate, il a eu beaucoup de conflits aussi avec d'autres, à la fois russes et à la fois de la barbaine de Côte-Rôtie. Donc,
oui, là, il énumère les crus, les différents
là,
crus.
Là, il a pris un risque, je crois, Socrate. Et d'ailleurs, ce soir-là, il disait...
Socrate, c'était une bouteille que vous a donné un ami, oui. qui est d'un vin qui s'appelle Socrate, et qui vous a accompagné pour la traversée de cette nuit.
Ah, oui.
Et j'aimerais bien savoir votre avis là-dessus, Christophe.
Sur Socrate, sur la maïotique. Bah, c'était une expérience de maïotique.
Qu'est-ce que ça veut dire, une maïotique?
C'est un accouchement. C'est-à-dire que Adèle Abdessébède, effectivement, vous l'avez rappelé, on a été invité par une mystérieuse femme qui s'appelle Concepcion à passer cette nuit dans le musée Picasso, enfermée, sans savoir vraiment pourquoi. Et Adèle est quelqu'un qui, d'ailleurs, l'une de ses œuvres l'a montré, Je ne me retourne pas, une œuvre où tu te fais harponner en clin d'œil à Cocteau et à Orphée, ne se retourne pas, en particulier sur son passé. Il n'en parle jamais. Moi, j'avais décidé quitte à passer la nuit avec lui, parce que je l'admire et que je veux le comprendre, d'accoucher de ce passé dont il ne parle jamais. Donc, maïotique, donc Socrate. Mais c'est lui qui a apporté finalement l'instrument nécessaire à cette maïotique, c'est-à-dire de l'alcool, car c'est une nuit de transe, d'ivresse, parce qu'il fallait qu'on accède à un niveau de conscience, niveau de légèreté, de gravité aussi. Et il nous fallait quelques munitions. Pour reprendre, on a entendu les stukas, les sirènes des stukas tout à l'heure pendant cette belle lecture. Donc voilà, donc Socrate était un vin, voilà, qui existe et qu'Adèle m'avait fait goûter dans son atelier d'ailleurs bien avant la nuit, voilà.
Ouais, on voulait faire Adèle. En fait, on voulait vraiment dire que nous sommes des Grecs mais irrationnels.
Voilà. C'est ça. Et justement, est-ce que vous avez l'impression que ce musée, dans cette nuit-là, avec la bénédiction de ces vins et de ces accompagnements, est devenu la possibilité de faire surgir votre labyrinthe à travers celui de Picasso?
Oui, parce que notre labyrinthe à nous, en tous les cas, dans le sens borgésien, c'est un labyrinthe en ligne droite, en vérité.
J'aimerais bien que vous me disiez pourquoi à l'attaque est votre cri de guerre. Depuis que je vous connais, presque une dizaine d'années, peut-être plus, à l'attaque.
Je pense à l'attaque, c'est pour moi avant tout, c'est une attitude, c'est une énergie extrêmement positive, qui peut être apaisée par la création.
Mais votre arme, quand vous partez à l'attaque,
c'est la création.
C'est la création, c'est l'art.
C'est la création.
C'est-à-dire la confiance dans l'art de transformer les choses.
Tous les jours, chaque instant. Je l'espère, en tous les cas. En tous les cas, c'est ma volonté.
Vous ressentez ça comme ça, Christophe Onodibio? Vous avez été à l'attaque ou vous avez été, au contraire, plein de douceur pour essayer d'aborder ce Picasso mystérieux?
Non, on s'est beaucoup disputé. Je voudrais juste rappeler, parce que là, on parle de vin, effectivement, c'était le protocole, puisque dans cette nuit au musée, en fait, on n'a rien d'autre que un lit, enfin deux lits, en l'occurrence, des lits de camp, qui étaient donc dans l'enceinte du musée. On est vraiment seul. On avait donc ces bouteilles de vin, du Bellota, puisque c'est une nuit espagnole, donc il fallait quand même qu'on puisse se nourrir, un dictaphone, un carnet, et le charbon avec lequel Adèle dessine, donc il a dessiné dans le carnet, etc. Mais en fait, pourquoi Guernica? Parce que aussi c'est une exposition dont l'œuvre était absente, donc il y avait un côté, l'œuvre brillait, Guernica brillait par son absence, mais surtout parce que c'était un moment où je trouvais Adèle un peu triste, un peu abattue. Alors je parle sous son contrôle, peut-être qu'il va m'attaquer.
Les conséquences de l'attitude pendant la Biennale de Lyon,
pendant l'exposition de Lyon plutôt. Oui. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on est dans un moment où on dit qu'on est libre en Occident, que les artistes sont libres de dire ce qu'ils veulent, et en fait on voit quand même cette liberté reculée. Et pour preuve, ce qui lui est arrivé quand il a montré cette vidéo au printemps, donc des poulets qui brûlent, dont on peut avoir l'impression qu'ils sont vivants et qu'ils sont réellement enflammés, sauf que c'est un trucage que d'ailleurs t'avais tu avais expérimenté sur toi-même dans cette vidéo Je suis innocent.
Oui, hein? C'est un effet spécial utilisé voilà. Par le cinéma, tous les films, ça veut dire...
Qu'est-ce que vous aviez fait dans Je suis innocent? Vous pouvez le décrire?
Ben, j'ai mis le produit, j'avais pas le droit de plus de 3 secondes, voire 4. Et donc après, voilà.
Vous avez enflammé le produit sur vous?
Sur moi-même.
C'est immolé, en fait.
Voilà, mais...
Et ça s'est très bien passé.
Comme toujours.
Voilà.
Bien sûr.
Comme toujours.
Sauf qu'en fait, cette vidéo-là, pendant l'exposition de Lyon, a été interprétée au-delà de tout ce qu'elle était. C'est-à-dire comme, en fait, un acte
de
mettre le feu, voilà, sur des animaux vivants. Et qu'il y a eu quand même un tombereau d'insultes venues du monde entier, de Chine, de gens qui ne connaissaient absolument pas l'œuvre d'Adèle. Et c'est vrai que se poser la question qui se pose, en fait, que s'est posé aussi Picasso, c'est-à-dire à quoi sert l'art? Est-ce que c'est fait pour décorer les appartements? Ou est-ce que c'est une arme de combat? Est-ce que c'est quelque chose qui permet d'ouvrir un peu plus, de dessiner le regard un peu plus? Et donc, on a fait cette nuit-là aussi. C'était pas gratuit, c'était pas une promenade.
Oui, mais comme vous le faites dire à Adèle dans le livre, c'est comme pour Godard, il n'y a pas de sous-titres. Donc, la chose n'est pas expliquée. Ouais. L'image, c'est toujours complexe.
Oui, dans le sens godarien, c'est une image simple, c'est pas une simple image, tout simplement. Je crois que le problème, en tous les cas, aujourd'hui, c'est un problème vraiment, et question vraiment de l'image qu'on doit la repositionner. Et je suis arrivé jusqu'à même aller plus loin, et pas dans le doute, mais admirer vers Pasolini dans la trilogie de la vie, et termine justement avec cette phrase où il disait, si on peut rêver des œuvres, alors pourquoi qu'on essaye de les faire, de les réaliser. Donc je suis allé jusque là.
De les rêver, d'arrêter de les faire.
Oui, pourquoi? Ouais. Pourquoi? Ouais. Parce que c'est la dernière phrase où il était en Giotto, épiné dans ce monastère, en tous les cas à l'époque. C'est Pasolini lui-même qui citait à la fin cette phrase dans la trilogie de la vie. Et j'ai posé cette question, à quoi servent les images? Et là, j'ai un sens baudelairien au fond de moi, quand il disait, les images peuvent frapper fort sans haine comme le boucher. Et je dois, je crois, faire ces images-là. On doit.
Surtout que ce que l'on sent dans ce livre, et pardon de parler quelques secondes juste pour réintroduire notre situation, ce livre, cette expérience que vous avez vécue, s'est fait après la Biennale de Lyon, où il y avait forcément une tristesse de la situation, de ne pas avoir été entendu, compris, puisque toute votre œuvre, c'est une œuvre contre la violence, contre la différence entre le monde animal et le monde humain. C'est des œuvres de compassion, pour une grande part, on peut dire, de combat en tout cas, pour la compassion et l'union des mondes.
En fait, ce sont mes frères
lointains. Vous parlez des animaux.
Les animaux.
Oui.
Et je pense, moi-même, je suis un défenseur de la cause animale. Mais je la fais autrement, tout simplement avec mon art et avec mes images. Mais je suis un défenseur de la cause animale. Donc c'est ça qui est très étrange, que les gens qui n'ont même pas vu l'exposition, qui ne sont même pas déplacés, qui n'ont même pas lu ce qu'il fallait lire, vérifier, et après ça dégénère jusqu'à la menace des musées ou des centres que ces centres d'art, en tout cas ces musées-là, ils sont pas formés en fait aujourd'hui faire face au déferlement justement des réseaux sociaux, et ça met des doutes, ça fragilise même l'équipe, ça veut dire les gardiens, les gens qui travaillent au sein de ces institutions, et donc la peur règne. Et après, quand la peur, elle commence à régner, personne ne va la maîtriser. Et ça, c'est, je pense, mérite une vraie discussion. Et comment empêcher justement ces gens-là? Je ne sais pas comment.
Mais repartons dans le livre, oui. Christophe.
Oui.
Parce que vous le faites dire, on l'a entendu à l'instant, évidemment, à Adèle, qu'il a envie de se crever les yeux pour ne plus voir ces choses. Mmh. Ces choses, c'est cette horreur permanente et qu'il a rappelé dans cette nuit que vous avez passée, mais qui est aussi ce dont on parle, cette violence à l'égard de nos proches, si je puis dire, les animaux entre autres. Mais il préfère, dans un élan de survie, frapper la lumière qui les fait voir. Mmh. Et au fond, tout ce qui s'est passé dans ce livre, et je dois attirer l'attention des auditeurs sur le fait que ce livre est très étrange. On ne fait jamais un livre d'art comme ça. Mmh. C'est-à-dire que ça n'est pas une biographie, ce n'est pas une fable, mais c'est aussi une fable. C'est un récit, mais pas seulement le récit d'une vie, c'est le récit d'une vie qui se superpose, qui est celle de Picasso à un moment donné de sa vie. Mmh. Et c'est le récit de votre désaccord et de votre rencontre et de votre accord et de votre tension, qui est une belle tension.
Oui, oui, il ne s'agissait pas effectivement de faire un livre d'entretien. Enfin, je pense que, enfin, moi, ça ne m'intéressait pas. Je voulais déjà en faire un personnage, parce qu'en fait, c'est une fiction. Mais le personnage est vrai. Moi, je n'apparais pas, je suis le scribe.
Vous êtes le scribe.
Je ne suis que le scribe. Mais la question se pose aussi, Adèle parlait des images, quel est le rôle des mots par rapport aux images? On pourrait croire qu'aujourd'hui, une œuvre d'art se suffit. Mais on voit que faiblement, finalement, les mots essaient de venir comme complice, comme béquille, comme... C'est une tentative de réarmement de l'artiste, en fait, ce livre-là. Adèle, non pas déprimée parce qu'il l'est jamais, mais réarmée dans la fiction qu'on a écrite par cette nuit et par ce contact avec un Picasso qui lui-même, au moment de Guernica, se réarme ou s'arme. Parce que vous faisiez état de ces différentes strates, mais c'est vrai que pourquoi Guernica? C'est que Picasso, qui est quand même espagnol, qui au moment où la guerre d'Espagne commence, ne réagit absolument pas. Même quand il est nommé président du musée des Beaux-Arts de Madrid, il n'y va pas. Alors là, on s'engueule là-dessus dans le roman, puisque Adèle défend les artistes, c'est normal. Moi, j'accuse Picasso d'une certaine... disons, non pas de lâcheté, mais d'une certaine indolence, d'un esprit jouisseur.
Vous dites, pourquoi peint-il des choses anodines alors que son peuple souffre?
Bien sûr, parce que le projet...
Et Adèle répond, ce n'est pas anodin, attention.
Mais ça, il faut en dire un mot, parce qu'en fait...
On va y venir, si tu veux bien.
Ouais.
On va y venir. Ce que je voudrais, c'est qu'on écoute une seconde un autre extrait du livre, parce que nous avons beaucoup de choses à nous dire. Et ça, c'est le début du livre. Écoutons ce que... Adèle dit, et ensuite c'est vous qui resituez la situation.
Ce qu'on fout là, comme tu dis, je l'ignore. J'ai accepté, moi, de passer cette nuit ici parce que c'est lui, Picasso. Et parce que c'est Guernica, que j'ai toujours été fascinée par cette toile. On est nombreux, tu me diras. Même si elle n'est pas là. Même si elle est devenue usante à force avec tous ces symboles, toute cette histoire autour d'elle. Mais je te l'ai écrit dans les notes que je t'ai envoyées. Je n'ai rien à faire avec Picasso. Lui, il a peint l'ampoule dans Guernica. Moi, je l'ai écrasé. D'accord, je raconte. En 1937, à Paris, la jeune République espagnole se dote d'un pavillon à l'Exposition internationale des arts et techniques dans la vie moderne, où ceux imposants de l'URSS et de l'Allemagne se font face. Dans une Europe au bord de l'implosion, ce pavillon doit être une arme de défense pour cette nouvelle Espagne, mise en péril par le soulèvement rebelle de Franco et de ses généraux. Picasso est approché pour réaliser une toile qui occuperait un mur entier. Donc il accepte. Et il se lance d'abord dans un sujet anodin. Non, ce n'est pas anodin.
Vous êtes sur France Culture, vous écoutez L'Art et la Matière. Je suis avec Adèle Abdessemed, le grand artiste, et Christophe Ondibio, l'écrivain. Et nous parlons de la nuit au musée, la nuit espagnole, vous l'avez compris. Et justement, c'est là que nous en étions dans notre conversation. Ce n'était pas anodin. Autrement dit, Adèle, vous voyez les esquisses, les premiers travaux de Picasso, alors qu'il ne prépare pas encore Guernica, mais il veut répondre à la commande qui est faite par l'Espagne de faire un grand panneau. Et Christophe vous dit, mais... Il peint le peintre et son modèle, des jeunes femmes, et vous dites ça compte, c'est pas anodin. Pourquoi?
Parce que c'est pas anodin, parce que il allait vers une œuvre au fond de propagande. La propagande en art, elle était née pour moi avec Caravage, quand il a peint cette prostituée qui s'est tombée d'un pont et que le peuple l'a reconnue. Et ça a été une œuvre rejetée par le peuple, violemment d'ailleurs, il voulait la détruire, la saccager. Or que les cardinaux l'ont aimé et l'ont même conservé. Et donc, Picasso, avec les mots justement de Salvador Dali, Picasso, un artiste espagnol, il disait que lui aussi, un artiste génie lui aussi. Or que Picasso, un artiste communiste, il dit « moi non plus ». Donc, c'est le génie de Picasso, c'est de mélanger deux choses, de l'intime, l'inévitable intime et les bombardements. Les bombardements du monde politique de tous les jours. Et donc, c'est pas rien que qu'on voit dans Guernica cette maman, cet enfant, la jument qui pleure et cette ampoule, effectivement, que moi j'ai fait un parallèle par rapport à l'œil, par rapport justement à que j'ai écrasé, que j'ai appelé justement nuance. Donc, Picasso, c'est tout ce mélange-là qui se mélange.
Mais Adèle, avant, Christophe avant Guernica, justement, et c'est là, il fait le projet pour le pavillon espagnol, c'est pas du tout, je veux dire, une scène d'art engagé ou de propagande ou ce que tu veux, c'est le peintre et son modèle. Et le peintre et son modèle, quand on voit que tous les compagnons de Picasso, ses amis, Éluard, André Masson, se sont engagés pour l'Espagne. Picasso, il est espagnol et on a l'impression qu'il bouge pas. Et cette petite république qui lui demande une œuvre vraiment... Vous avez rappelé dans cette lecture, il y a quand même les deux pavillons, URSS et Allemagne, qui se font face, qui sont extrêmement martiaux. Et le petit pavillon de la République espagnole, Picasso leur propose quoi? Le peintre et son modèle.
Est-ce que
ce que je comprends, l'acte de désengagement le plus grand?
Mais non, voilà. Adèle. Mais non, parce que je crois que c'est là où la nuance, si tu me permets, parce que c'est là où on voit que c'est pas un artiste de commande, c'est pas un Rubens où il peint Hélène dans tous ses états, Hélène qui allait, Hélène en Diane, Hélène en déchesse, Hélène, c'est pas ça. C'est vraiment, c'est pas un artiste qu'on peut lui faire une commande.
Mais ce que j'ai aimé beaucoup dans ce moment où vous êtes en désaccord, dans le livre vous êtes en désaccord, dans l'émission vous êtes toujours en désaccord, c'est formidable, c'est que Adèle, à ce moment-là, souligne quelque chose qui est très important, c'est que en protégeant la sensualité qui est celle de l'intime, il protège quelque chose qui est au cœur de la civilisation. Et ça précède à peine les pages tellement belles sur l'importance du nu.
Oui.
Adèle.
Oui. Parce que pour moi, c'était ma première science de liberté. Et c'est la science, je crois, de la liberté. Parce que le nu, je l'ai confessé à Christophe, ça commençait dans les hammams. Ça commençait dans les hammams. C'était la première séance de pâte à modeler pour moi.
Vous trouviez des excuses, jeune garçon, pour aller dans les hammams, vous n'aviez pas 10 ans et
exactement,
vous allez voir les femmes.
C'était fini. C'était fini
après,
à 9 ans.
Après, il n'y a plus que les dictionnaires.
C'est interdit. Voilà.
Oui, heureusement, il reste les dictionnaires.
Oui, le dictionnaire de mes cousines que j'ai découvert. Et c'est vrai, mes yeux sont tombés sur cette image extraordinaire, la baigneuse de Rembrandt. Et à l'époque... j'étais vraiment très jeune.
Encore le bain, hein. Du hammam à la baigneuse de Rembrandt.
Oui.
On est dans
l'eau. Mais on a le sentiment que cette baigneuse s'est fait violer cette nuit-là. Et ces violeurs, ils sont partis, elle s'est retrouvée au bout à côté d'une rivière comme ça pour
un peu boueuse.
Moi, en tout cas, j'entendais ces cris en fait, et jusqu'à maintenant, j'entendais ces cris d'un vrai viol. Elle était peinte comme par Rembrandt, qu'on connaît avec calme et avec sérénité, mais on voit, moi je le ressentais comme un viol.
Dans les pages qui sont consacrées à votre, justement, à la naissance de l'art en vous, il y a des expériences que vous avez vécues dans cette école des Beaux-Arts d'Alger, dont on le rappelait tout à l'heure, on écoutait, où il y a eu le meurtre du directeur et de son fils, quasiment sous vos yeux, à quelques heures près. Et il y a une très belle page quand vous parlez d'un modèle, parce que vous aviez la possibilité, et vous trouviez que c'était d'une préciosité et que c'était tellement important, de peindre le nu. Et peut-être que c'est ça qui vous intéressait beaucoup dans le fait que Picasso, dans ce moment de désastre de la guerre, avant le massacre de Guernica, peint des nus, c'était un petit peu la même chose. Alors j'aimerais, si vous le permettez, qu'on écoute ce passage du livre. Elle s'appelait Nadia.
Elle s'appelait Nadia. Elle vivait dangereusement. Elle avait gardé les yeux très noirs de sa jeunesse. C'était une ancienne ballerine du Ballet National Algérien. Elle aurait pu y faire carrière, mais elle avait été déçue par l'homme qu'elle aimait et avait dû, pour survivre, se débrouiller, comme on dit. On racontait qu'elle avait une fille, mais elle n'en parlait jamais. Elle posait depuis 1968. Elle avait les cheveux courts et un corps très brun. À 50 ans, elle restait jeune femme, belle pour la vie, comme les déesses de l'Antiquité qui n'ont pas d'âge. Quelques étudiants étaient gênés. Ils disaient qu'ils avaient l'impression de voir leur sœur, leur mère ou leur grand-mère. En 1983, à cause d'un étudiant intégriste, un de ceux qui jetaient de l'acide sur les femmes, le cours obligatoire de nu a été supprimé. Nadia a dû progressivement se rhabiller, recouvrir sa peau, alors qu'elle était là pour nous montrer ce qu'était la peau, la chair. Les os, les crânes, les squelettes, on savait trop bien les dessiner. Il n'y a plus jamais eu de nu ? Si. Le directeur de l'école, M. Aslar, dont je t'ai parlé, était courageux. C'était un homme libre, il l'a payé cher. Il mesurait la pression, mais il a accepté qu'on ouvre un petit atelier de nu, pour quelques étudiants seulement, dont moi. C'était presque clandestin. Nadia ôtait ses bas et son soutien-gorge et nous la dessinions. Nous l'aimions beaucoup. Elle nous apportait la science de la liberté. Car le nu est la science de la liberté. J'avais connu, tu vois, ma première censure à cause d'un nu, à l'école d'art de Batna, avant que j'aille à Alger.
Tu écoutais avec joie la chanson d'Atni Sekra. Et tu connais par cœur, en arabe évidemment, « L'ivresse m'emporte, elle m'emporte, et la souffrance m'emporte, je m'enivre chaque jour ». Et pour toi, le raï, tu le dis dans le livre, et Christophe le rapporte merveilleusement, et c'est très très bien dit, le raï, c'est cette liberté qui est encore tenue comme ça par la musique.
Ben oui, parce que le raï, c'est le premier qui a osé de chanter... Ce que, par exemple, des chansons qu'on ne peut pas écouter, ça veut dire en famille. Et ça arrive à leurs oreilles. Donc c'est vraiment l'oreille, c'est la première chanson, peut-être, où on mange de la chair crue, pour moi, sincèrement. C'est,
Et tu me dis, Christophe, qu'on prend, comment ça s'appelle, ce qu'on prend de très pimenté, justement, pour avoir encore plus soif.
Ch'teta.
Voilà. Et donc c'est quoi ? C'est des piments et des...
Oui, c'est des piments qui sont découpés en petits morceaux. Et en fait, ça gonfle tes lèvres et ta bouche. Et donc ça te pousse à consommer.
Voilà. Et le raï, ça veut dire l'opinion.
Et dans le livre, oui. Tu vois, parce que là, on vient d'entendre le premier moment, c'était assez beau, l'enchaînement, je trouve, parce qu'on entendait ces phrases que tu as dit à Christophe et qu'il a retranscrit. sur l'importance du nu comme dernière expression de la liberté finalement, et j'adorerais que les étudiants d'une école des beaux-arts, quand ils font des nus et qu'ils ont la chance de pouvoir en faire, ressentent l'importance de la chair et du sang qui est là. Et là, quand tu parles du rail, tu parles un peu avec la même chaleur comme ça, et tu évoques dans le livre Tchéra Rimiti, qu'on appelait la reine du rail, et tu racontes.
Son histoire, oui.
Son histoire et la fin. Raconte-nous.
Je sais, Tchéra Rimiti, c'est
on disait qu'elle mettait
du whisky dans sa théière. Mais oui, je pense qu'elle a fini peut-être comme une inconnue, hein, en vérité. Et c'était à l'origine. Parce qu'elle chantait vraiment le sexe, par exemple. Elle chante le sexe. C'est pas facile, surtout pour une femme.
Mais cette liberté n'était pas toujours possible. Chabasny, par exemple.
Chabasny s'est fait assassiner, oui. Mmh. Oui. S'est fait assassiner parce qu'il chantait l'amour, parce qu'il parlait aux jeunes, parce qu'il était sentimental, parce qu'il chantait, en fait, il chantait la liberté. Et c'était ça, vous savez que je dis toujours que d'où je viens, enfin ma jeunesse, qui était pour moi arrachée, hein, une jeunesse qui a glissé vers le sombre comme ça, une roue qui a continué à glisser vers le sombre. Et c'est vrai, c'était une jeunesse où on a vécu le Daesh avant Daesh. La décapitation, la mise en scène. Tous les chanteurs chantent pour des femmes. Et un des premiers messages de à l'époque de Jia, le fils, c'était décapité, démembré, et tronqué de 13 femmes à peu près. Mmh. Et donc, et on voyait le message justement pour dire, bon voilà, c'est celle qui se montre les cuisses, qui se montre le joli visage et leurs cheveux, et ben voilà ce qu'on va leur faire. Donc, ouais, pour régner de la peur, en vérité.
Il y a une très belle expression.
On
décapite pour couper le souffle. Couper le souffle de vie, couper le corps, couper l'énergie, ouais, en fait, ouais, si importante pour lui.
Comment ça s'est passé lorsque vous étiez ensemble dans ce musée, en train de vous promener au milieu de cela? Donc ça évoque ses pensées et ce souvenir de l'importance du nu dont on vient de parler. Vous allez vous rapprocher peu à peu du grand drame, et c'est-à-dire des moments d'expression. C'était une recherche sur vous-même. Vous aviez l'impression d'un danger psychique comme ça que vous viviez, ou pas?
J'avais l'impression, moi, de faire de l'alpinisme. C'est-à-dire qu'en fait, on avait vraiment ce camp de base avec ses deux lits, les bouteilles, le carnet de dessins, où Adèle revenait, parce qu'en fait, il a fait un certain nombre de dessins qui sont dans le livre pendant cette nuit, et qui surgissaient aussi de notre conversation ou de certains tableaux qu'on voyait. Je me souviens, à un moment, je me suis assoupi pendant la nuit, j'étais réveillé par les cris d'Adèle, qui était en fait dans une salle du musée. Donc je me suis réveillé en sursaut, et devant le film de Buñuel, Tierra sin pan, Terre sans pain, où Buñuel filme la pauvreté justement de cette population espagnole. Et d'ailleurs, pourquoi Adèle criait? Parce que dans le film de Buñuel, on voit des jeunes mariés, en fait, et la tradition voulait que ces jeunes mariés courent, enfin galopent à cheval et attrapent, en fait, la tête de coq vivant tendue sur des cordes dans les rues pour s'attribuer
la
dite virilité du coq, puisque c'était des jeunes mariés. Et Adèle m'appelle, ah, mais Christophe, mon ami. Et en fait, en me disant, voilà, regarde, Buñuel, il montre cette violence sur les animaux que j'ai toujours montré. Il la montre, il faut montrer. Et tout à l'heure, quand vous parliez des animaux, Jean de Loisy, je pensais aussi à un des animaux fétiches d'Adèle, qui est le hibou, qui est cet animal qui voit
dans la nuit,
et en fait qui voit ce qui est caché. Et c'est une assez bonne définition aussi de l'artiste. Oui. Alors, le hibou, la chouette, ça nous ramène à Athéna et à la sagesse aussi.
Quand on va à la grotte Chauvet, qui a 35 000 ans, une des figures de la grotte Chauvet, et dont qu'on reproduit moins que les lionnes, etc., c'est un hibou seul sur une paroi. On voit déjà dans la nuit, depuis 30 000 ans d'art, on est là.
Il faut qu'on y aille, absolument. Dans la grotte.
Quand vous parliez de l'un et l'autre de ce lit de camp, à un moment donné, ce lit de camp évoque quelque chose à Adèle. Et c'est un moment assez terrible parce que, évidemment, pour Adèle, ça rappelle l'Algérie. Écoutons ce qu'il dit.
Tu dormais sur un lit de camp ? Quand ils m'ont séquestré. Qui ils ? Les nazis. Qu'est-ce que tu racontes ? Les nazis. Nos nazis à nous. Les islamistes. Alors qu'il était étudiant aux Beaux-Arts d'Alger, des membres du GIA, le groupe islamique armé, le plus atroce des groupes, étaient entrés dans l'école et avaient assassiné le directeur et son fils qui y étudiaient. Le père, Ahmed Aslar, accusé de pervertir la jeunesse, avait pris plusieurs balles dans le visage. Le fils, 22 ans, avait été atteint à l'abdomen. Dans l'enceinte même de l'école, en plein Ramadan, le 7 mars 1994. À l'époque, des tracts placardés dans les rues appelaient les fidèles à accomplir au moins une action de djihad pendant ce mois de Ramadan. Un Ramadan de sang. 200 morts, 3 fois plus que l'année précédente. Adèle avait été contraint de fuir. Il était, semble-t-il, dans le viseur. Pourquoi exactement, je l'ignore. Je sais qu'il lisait Nietzsche pendant les couvre-feux. Meurt-on parce qu'on lit en Algérie, le soir, quelqu'un qui a écrit et proclamé que Dieu est mort ? C'est quoi cette séquestration ? L'art était la seule porte de sortie, continue-t-il. Comme s'il ne m'avait pas entendu.
Vous êtes sur France Culture, vous écoutez L'art est la matière et je reçois aujourd'hui Adèle Abdessemed, le grand artiste, et Christophe Audodibio, l'écrivain, pour leur livre « Nuit espagnole » qui est le récit d'une nuit au musée Picasso pendant l'exposition Guernica. Ça vient de sortir dans la série « Ma nuit au musée » chez Stock. Et c'est une histoire où, partant dans le labyrinthe, peut-être en ligne droite, comme le disait Adèle tout à l'heure, ou peut-être pas, mais en tout cas dans le labyrinthe du musée, on s'approche de Picasso, et en s'approchant de Picasso, on se rapproche aussi d'Adèle, et probablement Adèle, que Christophe Audodibio appelle à certains moments Laède, en jouant sur les lettres de son mot, de son nom, eh bien Laède se découvre lui-même. Picasso, au fond, est votre absolu contemporain, vous vivez à la même époque, Picasso et vous.
Dans quel sens ?
Dans le sens où on a l'impression que lorsque vous rencontrez Picasso, c'est comme si vous rencontriez un ami.
Eh oui, parce que je me résume toujours comme ça. Dans la société, ça m'arrive de couper mon oreille, donc, et je pense à Van Gogh. Et quand je veux être très très intelligent, je pense à Marcel. Et quand je veux être un mégalo, je pense évidemment à Picasso. Et je me résume dans ces trois confrères, amis. Picasso, quand j'étais en Algérie, c'était pour moi un artiste insupportable. Je ne supportais pas du tout. Parce que c'était presque quelque chose, le masque africain, toutes ces choses qui rappellent un peu la cicatrice, la douleur, des choses presque l'école de Paris, des choses comme ça. Mais effectivement, petit à petit, j'ai commencé vraiment à l'aimer, vraiment. J'ai aimé en fait son... J'ai découvert que Picasso, vraiment, c'est un peintre, mais c'est un guerrier en vérité. C'est un vrai guerrier.
Lui aussi est à l'attaque.
Ouais, à l'attaque. Ah. Et c'est ça qui m'a. J'ai découvert une stampe que j'ai montrée justement. Je l'ai réveillée. Je lui ai dit, viens voir. Et j'adore cette estampe absolument magnifique en sérigraphie. Et on voyait le fil barbelé.
Exact. C'est dans Songe et mensonge de Franco.
Et c'était extraordinaire de voir la subtilité chez Picasso de jusqu'aux petits détails. C'est pas que l'ampoule, c'est pas la jument, c'est pas que le nu, mais aussi le fil barbelé.
Alors Christophe Onodibio, racontez-nous parce que vous l'évoquez dans le livre.
Bah en fait, effectivement, on s'est aperçu, on ne savait pas ce qu'on allait vivre pendant cette nuit au musée, et puis on s'aperçoit que toutes ces strates finalement se chevauchent et provoquent du sens comme des silex qui se frottent. Et c'est vrai que d'une part, il y avait Adèle avait fait cette œuvre Who's Afraid of the Big Bad Wolf, qui a peur du grand méchant loup.
C'est une très grande œuvre. Vous pouvez la décrire.
Exactement, une très très grande œuvre de, je dis une compression. Alors il y a la version cube, compression cubique d'animaux taxidermisés, qui le grand massacre de la nature, le grand méchant loup étant peut-être l'homme pour le coup. Et puis il y a sa version justement guernicaesque aux dimensions de Guernica que j'avais vu moi avant, bien avant de connaître Adèle. Donc il y avait cette proximité aussi donc de Picasso déjà. Il se trouve que dans ce musée aussi, pendant l'expo Guernica, était montré la petite bande dessinée, je l'appelle comme ça, que Picasso fait, d'ailleurs commence juste avant de faire Guernica et finit après avoir réalisé Guernica, qui s'appelle Songe et mensonge de Franco, qui était d'ailleurs accompagné d'un poème de Picasso, où on voit le caudillo, Franco, s'attaquer à la beauté, s'attaquer aux femmes qu'il tue, manger la chair d'une jument, s'attaquer aussi à une magnifique statue et renversé par le taureau qui représente l'Espagne et peut-être aussi le paganisme qui vient faire tomber le catholicisme rétréci de Franco. Et il y a, dans les songes et mensonges de Franco, c'est ce barbelé qu'Adèle a utilisé pour ses Christs, notamment.
C'est ce lien avec le barbelé qui vous intéresse, qu'il a utilisé pour ses Christs également à Lyon, également pour de nombreuses reprises.
Et puis en poule.
Les barbelés de Guantanamo, par exemple.
Exactement, sur les Christs qui ont été montrés à Unterlinden, face à Grunewald.
Oui. Mon Christ, il vient, même lui-même, il a rendu hommage justement à Grunewald. Avec beaucoup d'esquisses et beaucoup d'œuvres et d'études.
Donc,
Picasso, je pense. Parce que comme on parle de Picasso, Grunewald, mais la série des croix aussi, ça a été inspiré par Bernhard Neumann.
Oui.
Et Bernhard Neumann, pendant les missiles justement de Cuba, il a fait une œuvre qui s'appelait Who's Afraid Yellow and Green and Blue, cette œuvre aussi de résistance extraordinaire. Et moi, j'ai dit pourquoi pas de ne pas, en fait, voilà, pas dans le sens de la continuité, ça veut dire la répétition de l'histoire. Je pense que Saint Augustin nous a dit que la croix, elle est venue nous sauver de la circonférence, du cercle. C'est pourquoi, en fait, la croix est venue nous sauver du cercle, ça veut dire de la répétition, l'éternel recommencement, pour qu'il n'y aurait pas une deuxième crucifixion. Alors, moi, j'ai répété, justement, le format, la mesure, la taille de Guernica et de beaucoup de mon œuvre. Il y a la multiplicité, souvent, de mon corps, la mesure, mon lit aussi. Il y a ces choses comme ça m'intéressent énormément.
Et puis l'autre motif, et c'est pareil, j'avais pas fait le rapprochement avant cette nuit-là, c'est que dans Guernica, vous avez effectivement cette ampoule électrique qui semble irradier, qui annonce même, j'allais dire Fukushima, non, Hiroshima. Et puis cette petite lampe qui vient presque conjurer cette toute petite lumière qui est brandie par cette mystérieuse silhouette qui sort du tableau et qui vient presque défier la puissance de cette ampoule qui représente la mort technologique. Et en fait, il y a une œuvre d'Adèle qui s'appelle Nuance, dont il parlait, où on voit le pied, c'est une vidéo, où on voit une ampoule justement qui grésille et le pied d'Adèle nu, qui au bout de 30 secondes, j'avais compté, écrase cette ampoule, fracasse justement ce que ne peuvent pas faire les victimes du tableau de Guernica qui subissent cette ampoule tueuse. Lui, Adèle, il a écrasé l'ampoule. Et il était question de ça aussi, retrouver la petite lumière.
Je trouve que c'est un des, vous l'évoquez dans le livre, c'est un des très beaux passages du livre. C'est le moment où, effectivement, ce qui est fragile et précieux et qui sort et qui évoque un monde paysan et un monde avant l'électricité, avant l'industrialisation, est peut-être la chose à protéger.
Antique.
On sent, c'est effectivement, c'est immémorial d'une certaine façon. On va écouter ce passage, écoutons-le.
Adèle me montra au centre la grosse tête qui sortait par la fenêtre et qui brandissait, énergique et décidée, contre l'ampoule tueuse au zigzag incendiaire, la simple flamme d'une lampe à huile. On en parlait si peu de cette petite flamme. Il n'y en avait que pour le taureau stoïque, le cheval agonisant, l'ampoule œil, le guerrier mort et les femmes hurlant de douleur, l'enfant sans vie. Je regardais cette drôle de figure et son flambeau dressé face à la colossale lumière de mort qui éclaboussait la scène. Une toute petite flamme, allumée par un être humain grâce à l'huile des oliviers immémoriaux et pas par une vulgaire impulsion électrique. Une simple mèche qui redonnait de la chaleur, pour que nous nous tenions debout face à l'obscurité, pour que nous y voyions plus clair. Je comprenais tout, enfin. Face à la mort lumineuse, Picasso avait décidé de brandir une autre lumière, plus humaine, pour la contrer. Guernica n'était pas une lettre de deuil. Ce n'était pas l'affirmation que tout ce que nous aimons allait mourir, mais que tout ce que nous aimons pouvait mourir, et qu'il fallait se battre pour que ça ne meure pas. Guernica, c'était la guerre à la guerre. Guernica disait « Non, la guerre n'a pas gagné ».
France Culture, l'art et la matière, Jean Deloisy.
Et je suis avec Adèle Abdessemed et Christophe Onodibio pour leur livre Nuit espagnole, qui vient de paraître chez Stock et qui est le récit d'une nuit au musée pendant l'exposition Guernica qui s'y est tenue grâce à Laurent Lebon et son équipe. Chère Adèle, on entendait à l'instant ce très beau texte, « Guerre à la guerre ». À un moment donné, l'auteur, votre ami Christophe, avait hésité. Il a pensé que « Guernica », ça voulait dire « la guerre à gagner », la « niquer », la victoire sur la guerre, et ou la victoire de la guerre. Alors, la guerre a gagné ou n'a pas gagné?
En fait, la guerre, le disait un autre confrère, Bertha Brecht, dans « Mère Courage ». Il disait que la guerre, elle se repose. Elle peut être blessée, elle boit une bière, mais elle recommence. Donc, la guerre n'est jamais finie. Et la guerre, c'est pendant la paix, c'est la vraie guerre. J'ai fait une œuvre que j'ai appelée « Histoire de la folie », comme un grand titre comme ça. Peut-être parce que je suis innocent. J'ai pris un crâne, ce crâne de ce jeune homme, peut-être avait 17 ans, de 19e siècle, que quelqu'un me l'avait offert. Alors, ce crâne, je l'ai écrasé aussi avec mon pied, sur un pavé parisien. Et quand je l'ai écrasé, vraiment, j'ai pas éprouvé une jouissance, mais j'ai compris quelque chose à ce moment-là. Voilà, la vie, elle peut frapper la mort. Et c'est ça peut-être notre guerre. Donc, la vie, elle doit résister, pas une seule fois, mais deux fois, je crois. Face à la mort.
C'est un beau manifeste. C'est par l'art qu'on peut résister à la mort?
Oui. Parce que l'art, c'est toujours lié à quelque chose qui est la postérité.
Oui, ça veut dire que ça continue.
Ça continue.
Nous avons
Christophe Onodibio.
Nous avons l'art pour que la réalité ne nous fasse pas périr.
Nietzsche.
C'est signé, voilà, de celui qu'Adèle lisait pendant les couvre-feux d'Alger pendant la décennie noire, pendant que le GIA interdisait ou voulait interdire la possibilité d'exister pour un artiste.
Comment était cette expérience pour vous, Christophe Onodibio?
C'était formidable.
La nuit était longue.
Oui, la nuit était longue et je suis sorti de cette nuit couvert de charbon, puisque non seulement Adèle a dessiné dans son carnet, mais il a dessiné sur les murs du musée
Picasso.
Il reste un de ses dessins aujourd'hui au musée Picasso.
Ça peut être un jeu pour nos auditeurs d'aller le trouver.
Exactement.
Ouais.
Et il a dessiné sur moi, aussi, sur ma chemise, sur mon visage. J'ai été performé par Adèle. Et non, c'était une nuit d'ivresse dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que il fallait, si on a parlé aussi beaucoup de vin, c'est parce qu'on a beaucoup parlé de sang et qu'il fallait que le sang de la vigne conjure un peu le sang des hommes. Et c'était une nuit à travers à la fois l'enfer de ces années algériennes, à travers le paradis aussi de l'atelier.
Il faut savoir que Adèle, que nous connaissons l'un et l'autre depuis quelques années, ne parle jamais de cela.
Il se retourne pas.
C'est vraiment quelqu'un qui, comme Orphée, que vous évoquez souvent dans le livre, ne se retourne pas.
C'est vrai, mais je pense qu'à un moment, il est nécessaire aussi. Alors, c'est pas un homme de mots, c'est un homme d'image, hein, il a dit. Et si j'étais là, dans son ombre, comme scribe, c'était aussi pour peut-être mettre quelques mots sur cette incompréhension. On a l'impression que les images, au fond, c'est peut-être rassurant d'ailleurs, que les images ne suffisent pas. Qu'on ait quand même besoin aussi d'un autre langage. Alors là, c'est une de nos controverses.
Je complète ce qu'il voulait dire, parce qu'il n'ose pas dire que dans les mots aussi, il y a des images. Et ce qui nous a unis d'ailleurs, parce que moi j'ai travaillé aussi beaucoup dans mon travail avec des mots.
Il adore la littérature.
J'ai joué aussi avec les mots aussi.
Et avec des grands écrivains.
Et bien, évidemment.
Avec Hélène Cixous.
Adonis.
Adonis, le grand poète.
Oui.
Syrien.
J'ai correspondé avec notre ami Jean Nouvel aussi.
Kamel Daoud,
oui.
Qui est pour lequel il y a une dédicace dans le livre. Et qui a fait aussi une nuit au musée, mais dans le musée érotique.
Exactement, c'est lui qui a initié cette collection. Mais je pense qu'il partage justement avec Adèle ce sens du combat. Et comme Adèle, Kamel ne se couche pas de bonheur, je ne sais pas. Enfin, je sais. Mais il ne se couche pas, tout simplement. Et c'est important aujourd'hui de ne pas se coucher. Et on écrit et on dessine aussi pour ça.
Christophe, quand Adèle dessine sur vous, sur votre chemise, et qu'il est dans cette sorte d'élan, on peut dire qu'il y a une sorte d'exultation à un moment donné. Vous avez l'impression d'avoir approché des mystères de Picasso et beaucoup des mystères d'Adèle, parce qu'il y avait justement à un moment donné une gravure très importante où une petite fille conduit avec une bougie le Minotaure, etc. Ouais. Donc je ne peux pas tout décrire du livre, évidemment. Je trouvais qu'il y avait quelque chose dans ce moment dionysiaque où l'emportement le pousse à dessiner sur le mur et sur vous-même et pourquoi pas sur le ciel. Est-ce que ça correspond, ce moment dionysiaque, c'est la signification de son rire?
Oui, alors, Dionysos retrouvé, comme ça a été écrit. Oui, dionysiaque, c'est ça. J'étais peut-être l'Apollinien et lui le principe dionysiaque. Oui, le rire. Alors le rire, ça va plus loin que Dionysos, puisque
en fait,
le rire a été satanique.
C'est présent.
Voilà.
Le libérer de ses présents.
Le rire d'Adèle.
De ses lignes.
A été taxé de satanique. Son père, je crois que ton père a été convoqué à cause de ton rire quand t'étais un jeune.
Un avertissement. Ouais. Conseil de discipline.
Ton rire était insupportable.
Donc c'était un rire satanique.
Mais en fait, c'est un rire de liberté. C'est te préserver la liberté, non? C'est cela. Aussi.
Pour moi, ça remplaçait aussi mes larmes. Voilà. C'est un rire qui a remplacé mes larmes. Donc ça aussi, les deux.
Vous êtes arrivé en France, vous avez quitté l'Algérie dans cette situation dramatique, vous êtes installé en France, vous avez travaillé à l'École des Beaux-Arts de Lyon, vous avez été étudiant à l'École des Beaux-Arts de Lyon, et là vous avez, à ce moment-là, travaillé tout de suite d'ailleurs avec un imam pour un travail très particulier, et qui au fond aurait pu être dessiné par Picasso. Quand j'ai vu la vidéo, il y a très longtemps déjà, de cet imam qui joue du Ney nu, au milieu de femmes nues.
Oui, avant seul d'abord. Après, je l'ai convoqué pour une deuxième œuvre parce que j'ai le plaisir parce que je pense que c'est une œuvre sincèrement pour moi elle a changé ma vie moi-même d'artiste. C'est-à-dire quand j'ai réussi à donner des Massoud, je dis je peux tout faire et à ce moment-là vraiment ça. Une chose qui est tombée, ça veut dire que j'ai compris que l'art, il peut changer le monde. Parce que ce monsieur, qui connaît aussi de la religion, il fait appel aussi à la mosquée de Lyon à l'époque, à la prière, et qui offre son corps, sa musique, son souffle, justement, à la pensée. Pour moi, ça, c'était... c'est une de mes plus grandes, vraiment immense joie de fabrication d'œuvres d'art. Et un encouragement, je ne sais pas comment je peux l'expliquer, parce que je n'ai pas des mots pour ça, immense joie. C'est une chose, voilà, c'est un éclat de joie de ce monsieur. À l'époque, il avait 73 ans peut-être. Il était imberbe, comme un bébé, gonflé par le souffle tout simplement, et qui a tenu pendant une demi-heure sans arrêter jouer de la flûte. Et c'est extraordinaire. Et je lui ai demandé, parce que j'avais peur, je ne sais pas, pour la première fois, où j'ai fait une sorte, comme un certificat, c'est un problème d'héritier ou de censure ou d'interdit. Et donc je lui ai dit, dis-moi pourquoi tu l'as fait. Et donc il le dit. Il a dit, par ta sincérité, par ta force. Donc j'ai ce passage qui est comme un certificat pour où il était nu. Il lui dit pourquoi il l'a fait. Pourquoi. Et ça, c'est pour moi un moment rare, unique. Ça m'a encouragé pour tout faire. C'est-à-dire que je peux. Moi, je rêve et vous allez voir.
On va voir, Christophe Onodibio.
On va voir ce qu'on va voir. Ouais.
Merci, merci infiniment Christophe Onodibio, bravo merci pour ce livre exceptionnel qui ne ressemble à aucun autre et qui traverse une fable, un personnage, un artiste, un immense artiste. Et merci à vous Adèle d'avoir bien voulu témoigner de cette aventure. La nuit espagnole, ma nuit au musée chez Stock.
La matière, c'est la vie aussi.
Toutes ces idées qui viennent, il faut les attraper, comme des mouches, quand elles passent. Ce sont des idées bleues, des idées roses, des idées qui passent.
Parce qu'on veut transformer la vie pour un moment.
C'était L'art et la matière par Jean Deloisy en partenariat avec Beaux-Arts Magazine. Et aujourd'hui, j'ai reçu Adèle Abdessemed, le grand artiste, Christophe Onodibio, son scribe et le grand écrivain, pour leur livre Nuit espagnole, qui vient de paraître chez Stock. Vous retrouverez les références des musiques et des livres sur le site franceculture.fr. Une émission conçue en collaboration avec Seam Boutata, merci Seam, lecture des textes Elsa Dupuis, prise de son, Éric Boisset, et réalisation évidemment, Franck Lilin. La semaine prochaine, nous rencontrerons Xavier Rey, le directeur des musées de Marseille, pour évoquer son exposition Par hasard, qui traverse le siècle autour de cette notion extraordinaire pour les artistes du hasard. À 15h30, vous retrouverez le rayon BD par Victor Massé de l'Épinay, et dans quelques instants, Personnages en personne par Charles Danzig. Bon après-midi sur France Culture.